mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes de PIAF et des membres de l'association ATTAC.
Et nous recevrons aujourd'hui Nicolas Bertomeau, membre d'ATTAC, qui viendra nous parler du kit anti-requin pour essayer de vous défendre dans la mer agitée des banques qui veulent nous dévorer. Mais nous attendons un coup de fil bientôt des intermittents du spectacle qui occupent aujourd'hui la direction du travail d'Aubervilliers, mais le coup de fil n'étant pas encore là, nous allons écouter Gaël.
Ouais, c'est pas des gens sérieux.
C'est pas des gens sérieux. Ils sont là par intermittence, hein, ouais. c'est le principe de leur métier. Donc Gaël va nous parler justement du droit du travail et comment faire respecter efficacement le droit du travail.
Et oui. Une fois n'est pas coutume, le PS fait l'unanimité. Les députés PS ont proposé une loi qui réunit à la fois patronat et syndicats contre elle. Ce qui fait hurler les patrons, ce sont les moyens supplémentaires donnés aux inspecteurs du travail. Il s'agit, par exemple, d'améliorer leurs moyens d'expertise technique aux frais de l'entreprise visitée pour les risques physiques, chimiques, biologiques. La nouvelle loi permettrait aussi aux inspecteurs de réclamer tout document nécessaire à l'enquête, alors qu'aujourd'hui, la liste de documents est délimitée par le Code du travail. Enfin, les sanctions seraient durcies en cas d'entrave à l'action des inspecteurs. Pour la CGPME, le syndicat des PME, il s'agit ni plus ni moins que d'une transformation de l'inspection du travail en une véritable inquisition du travail. Il ne manque plus que les bûchers. Un autre aspect de la loi, c'est une sorte de dépénalisation du droit du travail. Aujourd'hui, quand l'inspecteur constate une infraction, il dresse un PV, puis la justice instruit l'affaire. Le problème, c'est que la moitié des PV n'ont pas de suite connue, et parmi ceux qui ont une suite connue, seuls 15% donnent lieu à des poursuites. Comme le résumait le directeur adjoint du travail, les tribunaux condamnent peu, trop tard et trop faiblement pour que les sanctions soient dissuasives. Donc pour rendre plus efficaces les contrôles, la loi permettrait de remplacer les procédures judiciaires par des amendes qui seraient fixées directement par l'administration, un peu comme dans le domaine fiscal. Mais derrière cet objectif louable d'efficacité, il y a quelques dangers pointés par les syndicats. L'amende serait fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le direct, et pourrait être négociée. Or, contrairement aux magistrats, le direct n'a aucune indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Donc ça vous laisse imaginer, dans un contexte de chômage, le chantage à l'emploi qui pourrait s'exercer sur lui.
De l'efficacité, quoi.
Voilà. Et puis cette négociation de l'amende, ça transforme les patrons en justiciables à part. Tu voles un scooter, tu vas au tribunal. Tu maltraites tes salariés, tu vas négocier discrètement ton amende dans le bureau du direct. Ce traitement de faveur pose un autre problème de transparence et d'équité dans l'application du droit du travail. Contrairement à un procès, la négociation de l'amende ne serait pas publique. Et les syndicats, qui seraient exclus de la procédure, ne pourraient plus défendre les victimes des infractions, en se portant partie civile par exemple. Donc finalement, quel choix faire ? L'efficacité des contrôles visé par cette loi ou le respect des principes du droit. En fait, il faut ne pas se laisser enfermer dans cette alternative et imposer un troisième choix, c'est-à-dire cesser de tailler dans le budget de la justice pour lui donner enfin les moyens de poursuivre efficacement les délinquants du travail.
Ce qui est très bien. On n'a toujours pas de nouvelles de l'interview, mais ça aurait été dommage, ça aurait été bien en lien, vu que c'est justement l'occupation du direct, du directeur, de la direction du travail d'Aubervilliers, qui a lieu depuis ce matin à 10h. On enchaîne sur les chroniques d'actualité avec Jean-Marc et Magali, qui vont nous parler, pour l'un, de McDonald's.
Alors, McDonald's, c'est une des multinationales qu'on aime bien, et pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sanitaires, puisque c'est quand même le plus gros pourvoyeur des instituts contre l'obésité du monde. Mais c'est pas pour ça qu'on va en parler ce soir, c'est parce que, bonne nouvelle, McDo s'est fait virer d'un pays, la Bolivie. Et en fait, la Bolivie n'a même pas eu besoin de prendre une loi pour virer McDo. McDo se vire tout seul parce que McDo n'arrive pas à faire des affaires correctes en Bolivie. Les Boliviens ont refusé, malgré des campagnes de pub massives, d'adhérer aux hamburgers pourris et gras. Ils préfèrent manger des empanadas et ils ont bien raison.
Mais c'est bon les empanadas. Puis, on peut les acheter n'importe quand, c'est toujours bon, toujours frais. Magali, tu nous parles de l'audit de la dette.
Oui, on l'entend partout, sur toutes les ondes, dans les bouches d'une grande majorité de nos hommes politiques. La France doit, comme vous le savez, se serrer la ceinture. Elle aurait en effet vécu au-dessus de ses moyens pendant de nombreuses années, en flambant à coups de protection sociale, de recrutement de fonctionnaires, de politiques culturelles et autres caprices. Voilà comment aurait été accumulée cette fameuse dette qui pèse et qui nous pèse tant aujourd'hui.
Qui nous pèse ?
Qui nous pèse,
ah, pardon.
Jean-Marc. C'est ce discours qui permet aujourd'hui à nos dirigeants de présenter les politiques d'austérité comme la seule alternative possible et de justifier les coupes dans les dépenses publiques. C'est le fameux plan d'économie de Manuel Valls. Pour lutter contre ce fatalisme ambiant et destructeur, des citoyens et un collectif se sont réunis comme un collectif. C'est un collectif national pour un audit de la dette publique qui s'est formé grâce à des organisations syndicales et associatives, dont ATTAC, et qui a été soutenu par quelques formations politiques, donc pas le PS ni l'UMP comme vous le pensez. Et ce collectif a décidé de regarder d'un peu plus près les origines de la formation de cette dette depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et a rendu son premier rapport d'audit très récemment, le 27 mai. Alors, sa principale conclusion, c'est que 59% de cette dette publique provient des cadeaux fiscaux et des taux d'intérêt excessifs pratiqués. Alors, dans ce rapport, le collectif montre que l'augmentation de la dette de l'État ne peut s'expliquer par l'augmentation des dépenses. La preuve, c'est que la part de ces dépenses dans le PIB a chuté de 2 points en 30 ans. Donc si la dette a augmenté, c'est d'abord parce que tout au long de ces années, depuis le début des années 80, l'État s'est systématiquement privé de recettes en exonérant les ménages aisés et les grandes entreprises, et également du fait de l'évasion fiscale qui s'est largement multipliée sous l'effet de la libéralisation des mouvements de capitaux. Donc la part des recettes de l'État dans le PIB a chuté de 5 points en 30 ans. Et si l'État, au lieu de se dépouiller lui-même, avait maintenu constante la part de ses recettes dans le PIB, la dette publique serait, selon ce rapport, inférieure de 24 points de PIB aujourd'hui par rapport à son niveau actuel. Donc 24 points de PIB, ça représente quand même 488 milliards d'euros. L'autre phénomène majeur pointé dans ce rapport, c'est les taux d'intérêt excessifs pratiqués, en particulier dans les années 90, période où la France, pour se préparer à l'entrée dans la zone euro et respecter les fameux critères de Maastricht, a pratiqué une politique du franc fort, avec des taux d'intérêt très élevés qui ont permis de limiter la création monétaire et donc de maintenir la valeur du franc.
Bien sûr, on a compris tout ce que tu as dit.
Ces taux d'intérêt élevés ont généré mécaniquement une augmentation de la dette que nous continuons de payer aujourd'hui. Et le rapport souligne également que si l'État, au lieu de se financer sur les marchés financiers, avait eu recours à des emprunts directement auprès des ménages ou des banques à un taux d'intérêt plus normal de 2%, la dette publique serait aujourd'hui inférieure de 29 points de PIB. Alors, Tout ça signifie qu'aujourd'hui, l'impact combiné des deux phénomènes que je viens de décrire fait que 53% la dette publique aujourd'hui est très importante, et que si l'État n'avait pas réduit ses recettes et choyé les marchés financiers comme il l'a fait pendant toutes ces années, le ratio dette publique sur PIB aurait été seulement de 43% au lieu de 90%.
Voilà. Remboursez-nous notre dette. Alors justement, si on veut que tout se passe pour le mieux, bah, il faut protester et, entre autres, il faut que ça saigne. Boris Vian.
À la gloire de tous les enchanteurs du Merlin, les joyeux bouchers.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Mode Emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque. Et d'ailleurs, nous allons attaquer.
Et nous attaquons avec un membre d'Attaque, Nicolas Bertomo, qui vient nous parler du kit anti-requin. Alors, mais c'est quoi les requins et pourquoi cette campagne ?
Alors, les requins, ce qu'on entend par requins, c'est les requins de la finance. Donc c'est principalement trois cibles qu'on a retenues. Je vous dévoile tout de suite, c'est la BNP Paribas, la Société Générale, donc deux multinationales bancaires, et une multinationale, on va dire dans le secteur secondaire, Unilever, donc un géant de l'agroalimentaire et de la lessive également.
Ne l'oublions pas.
Donc on a lancé cette campagne il y a maintenant 6 mois, puisque c'était à peu près au début de l'année. On l'a lancée sur quelques principes en fait qui nous ont semblé importants dans l'évolution de l'altermondialisme depuis 15 ans qu'il est reconnu, qu'il est en place, on va dire. Il nous fallait, on va dire prioritairement, avoir notre propre calendrier. C'est qu'il y avait une perception d'un essoufflement à réagir. Réagir à des sommets de chefs d'État, les G8, les G20. Donc on faisait des contre-G8, des contre-G20, des contre-sommets de l'OMC. On s'est dit, essayons pour une fois de définir notre calendrier, de ne pas réagir et de ne pas être, on va dire, dans la contestation, dans le contre, mais montrons des choses que nous, on a envie de voir en place, qu'on a envie de mettre en place. Et on s'est lancé sur cette campagne avec 3 adversaires, et pour chacun des adversaires, une cible, une exigence concrète. Par exemple, pour la BNP Paribas, c'était que la BNP Paribas ferme ses filiales aux îles Caïmans. Donc c'est une exigence assez faiblarde, on va dire, par rapport à tout ce qu'est l'évasion fiscale à travers la planète.
En même temps, ils financent Roland-Garros et Lacoste aussi, donc il y a une cohérence.
Et il caïman en Lacoste. Donc on explique les blagues de JMJ en deuxième partie de soirée.
Donc pour la BNP Paribas, c'était notre exigence concrète. Pour la Société Générale, c'était là aussi quelque chose qu'on pourra juger un petit peu maigrelet, faiblard. Je reviendrai là-dessus pourquoi on a pris des trucs très simples. Pour la Société Générale, on a exigé leur retrait de toutes les études de faisabilité sur lesquelles ils étaient engagés sur un projet de mine géante d'extraction de charbon en Australie, le projet Alpha Coal. Et la troisième cible et exigence concrète, c'était par rapport à Unilever, donc cette fameuse multinationale de l'agroalimentaire. Et on exigeait de la part d'Unilever, en fait, la cession de la marque Éléphant, et infusion Éléphant, au Fralib de Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà un peu comment se décline la campagne, avoir notre calendrier, avoir des exigences concrètes pour, qu'on espérait obtenir, c'était obtenir des victoires et sortir du fatalisme. Bon, on ne peut plus rien faire, rien ne bouge, comment agir face à des multinationales qui sont de véritables pieuvres qu'on ne sait pas par où attaquer.
Et puis c'est aussi peut-être s'adresser à notre public, que les habitués qui vont militer en se déplaçant pour les contestations du G8-G20, c'est aussi peut-être avoir de nouveaux militants qui vont aller devant leur banque à eux protester.
Ça, effectivement, la manière dont après on a mis en œuvre et réalisé cette campagne, on s'est posé à nous-mêmes une exigence concrète et atteignable, qui était de faire qu'il y ait une mobilisation citoyenne d'ampleur et qu'on élargisse, on va dire, le cercle militant à tout citoyen. Et donc, on a sorti ce fameux kit anti-requin que vous pouvez voir.
Alors, on peut le voir, hein, tout le monde le voit bien devant son poste. Approchez-vous si vous ne le voyez pas. C'est donc un petit carnet en joli papier, certainement tout ce qu'il faut de recyclable, qui vous donne toutes les indications pour participer à cette lutte, parce que c'en est bien une, même si elle prend une nouvelle forme là. Et vous avez même 8 petits autocollants pour traquer vos banques et vos Unilever préférés, avec une série d'autocollants pour le boycott. Par exemple, pour BNP, vous pouvez le coller sur la façade que vous plaît. On n'est pas à salir n'importe quelle façade. Hein. Vous pouvez choisir celle que votre fenêtre à vous, si vous voulez. BNP, tricheur fiscal 2014. C'est un bon titre. Hein. Je sais pas, vous en voulez d'autres
Oui, boycotter les produits Unilever pour libérer l'éléphant.
Voilà, donc on a un bel éléphant, libérons l'éléphant, ou encore un petit dernier, allez pour la route.
Donc Unilever, c'est quand même 400 marques différentes, donc il y a de quoi boycotter.
Il y a de quoi boycotter. Société Générale, pollueur 2014, enfin voilà un peu.
Voilà, donc un autocollant pour chacune de nos cibles. Et le but du kit, c'est, donc il y a à peu près une vingtaine de pages, qui sont des argumentaires sur les raisons pour lesquelles on a ciblé ces 3 multinationales. Donc BNP Paribas, pour son rôle dans l'optimisation fiscale, c'est-à-dire dans l'évasion fiscale, puisqu'elle conseille ouvertement à ses clients d'installer des comptes à droite ou à gauche pour échapper à l'impôt. La Société Générale, c'est plutôt l'aspect donc écologie, environnement, puisque cette fameuse mine de charbon en Australie détruirait la Grande Barrière de Corail et alimenterait tout le sud-est asiatique en charbon.
Et détruirait les requins aussi. Pas très logique.
Et Unilever plutôt sur l'aspect social que les multinationales ne prennent pas du tout en compte, à savoir qu'on a affaire à une stratégie habituelle de délocalisation pour augmenter les profits des actionnaires de la multinationale.
Bref, aucun doute, ce sont bien des requins. Alors, nous parlons du kit anti-requin, donc on vient de les citer, Société Générale, BNP et Unilever. On vient de voir que c'est une lutte, une nouvelle forme de militantisme adressée à tout le monde, mais finalement, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que la campagne a pu fonctionner comme vous l'entendez?
On s'est donné les moyens pour qu'on essaye d'élargir les personnes impliquées dans la campagne, et donc dès ou même avant son lancement, c'est-à-dire en décembre, janvier dernier, on a mis en place ce qui s'appelle le crowdfunding.
Crowdfunding.
Le financement participatif. Donc le truc le plus connu, c'est la filiale de multinationale ou je sais pas trop quoi, la KissKissBank. Donc nous, on a mis ça en place sur notre site internet et les gens pouvaient contribuer à la publication et l'impression des kits anti-requins. Grosso modo, c'est 50 centimes la publication d'un kit avec les autocollants. Et les gens donnaient donc 5, 10, 15, 20, par multiple de 5, en euros. Et on a réussi à récolter comme ça 25 000, à peu près 25 000 euros, c'est-à-dire à financer l'impression de 50 000 kits anti-requins. C'était l'objectif qu'on s'était donné, 50 000 kits anti-requins. Et c'était une première manière de faire participer, ou du moins d'impliquer, le public, à savoir que s'il adhérait à cette aux idées de la campagne, faire plier les multinationales sur des objectifs clairs, ils pouvaient financer, c'est-à-dire contribuer à la campagne et s'ils le souhaitaient recevoir aussi son kit anti-requin par la suite. Donc c'était la première modalité, on va dire, d'inclure les gens dans la campagne, de la co-construire avec eux, même si les cibles étaient définies, si les contenus, les argumentaires étaient déjà définis. Mais bon, on allait au-delà de l'attaque et effectivement on l'a vu puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui ont découvert, on va dire, attaque à ce moment-là puisqu'il y a eu un petit plan com fait pour le lancement de l'impression des kits. Et après tout ça donc a convergé vers le 15 mars où toute personne qui avait financé les kits, qui avait participé au crowdfunding, était invitée à rejoindre donc ou à mener lui-même s'il le souhaitait une action, c'est-à-dire une diffusion des kits le 15 mars. Donc il y a eu en France comme ça à peu près une cinquantaine d'actions recensées qui étaient des journées de diffusion du kit. Donc soit devant la BNP, soit devant la Société Générale, soit devant une grande surface qui vendait des produits Unilever. Et après ça, donc on a défini un calendrier où on se reposait, un, sur les comités locaux d'attaque, évidemment, puisque c'est déjà des organisations donc avec des capacités financières plus importantes pour et logistiques plus importantes. Mais on invitait chacun également à coller les autocollants en permanence, à essayer de créer autour de lui une mobilisation sur ses cibles et cette campagne.
Alors, un mot qu'on aurait envie d'entendre un petit peu dans ce genre de lutte, c'est est-ce que c'est pas une sorte de désobéissance civile?
Alors, le terme apparaît dans le kit.
Oh, quelle surprise!
Donc la désobéissance, on l'a commencé d'une manière très simple, c'est que effectivement coller un autocollant sur un support qui ne nous appartient pas est passible d'une contravention numéro 5. C'est indiqué dans le kit, je ne sais plus ce que dit le code pénal là-dessus. Mais c'est une première forme de désobéissance, c'est-à-dire qu'on colle un autocollant sur, par exemple, la vitrine de la BNP. Bon, voilà, la BNP peut nous attaquer. Donc on enfreint la loi, c'est une action collective avec une exigence concrète. Bon, on est dans le cadre de la désobéissance. Après la campagne, ce qui était un peu programmé et qui a réussi, c'était qu'on monte, on monte en degré, on va dire, dans la désobéissance. Et c'est ce qui s'est passé assez récemment, notamment vis-à-vis de la Société Générale, puisque là, on ne s'est pas limité, on va dire, à coller des autocollants, mais il y a eu un groupe au Pays Basque qui a lancé un ultimatum à la Caisse Régionale Pays Basque de la Société Générale, leur dire, bon, bah, si vous ne retirez pas l'opération Alpha Call, on fait une opération, nous, retour à l'envoyeur. Ils ont fait un crowdfunding pour acheter 1,8 tonne de charbon. Et effectivement, le lundi, je crois, 3 juin, ils l'ont déversé, donc dans deux bennes, ils l'ont déversé sur le trottoir devant la caisse régionale de la Société Générale. Donc là, on allait un peu plus loin dans la désobéissance.
Est-ce qu'il était allumé ou pas, le charbon ?
Non, on n'a pas fait de barbecue avec.
C'est dommage, ça c'était radical.
Enfin, un petit steak de requin.
Ce serait grillé.
Donc après, cette campagne, elle est donc conçue pour monter, on va dire, en puissance au fur et à mesure du calendrier. Sur la Société Générale, on est passé du collage autocollant ou de la présence déguisée en poulpe ou en kangourou devant les agences. On est passé donc au déversement de charbon et on va continuer. Alors on va voir comment on continue puisqu'on on réfléchira tout ça un peu plus au mois de juillet. On a obtenu satisfaction sur les Fralib, par exemple, puisque Unilever et les Fralib de Gémenos ont conclu un accord. Donc c'est la fin de la cessation d'activité des Fralib et Unilever, donc a plus ou moins satisfait quasi toutes les exigences des Fralib.
Sauf la marque.
Sauf la cession de la marque.
Ouais.
Mais bon, il y a quand même accord pour que le fichier commercial de Unilever soit remis aux Fralib, enfin que les Fralib continuent d'utiliser les débouchés commerciaux que Unilever avait. Donc c'est une chose, il y a une garantie sur les Fralib, sur leur activité, il y a un réachat de l'outil de production des Fralib par Unilever. Donc il y a quand même, on va dire, cession de, non pas de la marque, mais de Unilever sur la question des Fralib. Et en discutant avec Olivier Leberquier, qui est le délégué syndical CGT au Fralib, donc est l'une des personnes qui menait depuis 4 ans la lutte, c'est que leur combat a été quand même appuyé par la campagne d'attaque. On a quand même réussi à faire plusieurs appels au boycott sur 2 ou 3 journées depuis décembre dernier. Et donc ça a un peu attaqué l'image, on va dire, de Unilever. Et pour Olivier Leberquier, c'est que ça a permis de faire bouger certaines lignes. Parce qu'on avait, par exemple, imprimé 200 000 autocollants d'appels au boycott. Donc c'est un peu ridicule, l'autocollant, mais c'est quand même une menace sur l'image de marque des multinationales.
Alors, l'image de marque, quand c'est une multinationale qui est un peu cachée, c'est le cas. Mais est-ce que pour les banques, on peut dire que ça a eu une incidence négative pour elles et elles vont réagir aussi comme Unilever ?
Et c'est peut-être un peu... quelles sont les recettes du succès là qu'on aborde ? C'est que c'est pas la campagne d'attaque ou des requins sur appelant à coller des autocollants Unilever qui a fait plier Unilever. On va dire qu'une multinationale peut aussi s'en moquer, mais c'est qu'on était en articulation, en lien avec une lutte locale, longue et dure, puisque ça faisait 4 ans qu'elle durait, et c'est quand même ce travail-là, local, le travail militant des Fralib, qui a fait tout le travail. Nous, on était une manière de diffuser le combat des Fralib. Donc je pense que c'est la jonction des deux qui a permis de faire tomber Unilever sur ce point. Et c'est la question, effectivement, des alliances. Parce que attaque seule, c'est dur de gagner un truc. On a une alliance, par exemple, sur la Société Générale avec les Amis de la Terre, mais ça reste, on va dire, deux, je mets des guillemets, ONG, qui font de l'agite propre.
Mais... Le mot est connu, c'est toujours agir local, penser global. Est-ce que l'action locale, c'est celle qu'on souhaite ? Et la pensée globale qui est véhiculée par l'intermondialisme en général et attaque là en l'occurrence, c'est une bonne conjonction quoi, finalement. C'est d'arriver avec une bonne analyse face à des gens qui sont prêts à se battre jusqu'au bout.
Mais cet aspect, effectivement, de la lutte globale, bon, on l'avait intégré déjà dans nos argumentaires, puisqu'on avait les trois dimensions sur lesquelles, on va dire, l'altermondialisme se bat, donc la financiarisation, la question environnementale et la question sociale. Et là, par exemple, sur la Société Générale, bon, on a déversé notre charbon, ça, on va le continuer, et on va vraiment intégrer cette lutte contre la Société Générale comme un exemple concret de ce que fait une multinationale. Un exemple donc très localisé, une mine de charbon en Australie. On va maintenant, à partir de, on va dire, la rentrée prochaine, l'inscrire dans une perspective beaucoup plus globale et qui apparaît souvent éthérée, celle de la COP21, donc le sommet de l'ONU sur le changement climatique, qui se tiendra au Bourget en décembre 2015. Donc là, on a à peu près un créneau d'un an et demi pour articuler ce combat contre ce que fait une multinationale sur un point très localisé dans le monde, en Australie, et des enjeux climatiques. Et c'est-à-dire qu'on sortira un petit peu du mot d'ordre altermondialiste à Copenhague, qui était « il n'y a pas de planète B, changeons le système, pas le climat ». Là, on attaquera en fait la mobilisation contre le changement climatique et pour une régulation sérieuse contre les effets de serre, enfin les gaz à effet de serre et tout ça. On l'attaquera avec un exemple concret de ce que fait le multinational à travers le monde.
D'accord. Et si quelqu'un veut donc participer, c'est assez facile. On peut trouver le kit un peu partout. On peut aussi donc l'obtenir par le moyen du financement collectif dans tous les comités locaux d'attaque.
Normalement, tous les comités locaux d'attaque ont leur kit et sont prêts à en distribuer et à rencontrer toute personne qui souhaite les rencontrer.
Et au niveau local, on a vu passer un peu partout des mobilisations devant les sociétés générales. On a eu une il y a quelques semaines à Clermont-Ferrand, pour citer un exemple particulier. Et on en trouve un peu partout des rebondissements. Alors, ça fait partie aussi d'un ensemble d'actions qu'on peut retrouver évidemment tout ça sur le site d'attaque.
Même sur le site, enfin, depuis le site d'attaque, on arrive sur le site Les Requins, mais c'est le site lesrequins.org.
Voilà. Et nous sommes dans quelques semaines, ce sera le 12 juillet, ça sera le 110e anniversaire de la naissance de Pablo Neruda. Et on peut écouter à cette occasion la complainte de Pablo Neruda par Jean Ferrat.
Je vais dire la légende de celui-là, de Don Pablo Neruda. Quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Bonsoir, 106.3, fréquence Paris pluriel. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevions justement Nicolas Berthomeau d'ATTAC, qui nous a parlé du kit anti-requin et qui va continuer à nous parler un petit peu de l'ensemble des luttes qui ont lieu en ce moment.
Donc, peut-être pas l'ensemble des luttes.
Quelques-unes. Choisissons.
Donc, oui. Enfin, cette campagne, donc, un peu ce que je disais, c'est qu'on l'avait voulu un petit peu nouvelle par rapport aux autres campagnes d'attaque. Et là, c'est une campagne qu'on lançait sur l'année. Donc, par rapport à la Société Générale, comme j'ai pu le préciser, on allait jusqu'à la COP, conférence de l'ONU sur le climat, en fin 2015, donc ça va excéder l'année 2014, on déborde d'une année. Et là, ça va être un petit peu l'heure du bilan d'étape. On est à 6 mois du lancement de la campagne. Et donc, on va se lancer sur une réflexion, on va dire collective, au-delà de simplement attaque, sur comment on peut vraiment mener des combats contre les multinationales. Et donc là, on va profiter de deux événements attaque, mais avec d'autres, de cet été, qui sont l'Alter Village d'attaque, qui se tiendra du 27 juillet au 3 août dans la Drôme, dans la ville de Saillant, que certains peuvent connaître par rapport aux élections municipales dernières. Et donc là, il y aura donc tout un atelier sur comment mener combat victorieux contre les multinationales. Et c'est une chose qu'on va également reconduire à l'Université européenne des mouvements sociaux à l'initiative du réseau des attaques d'Europe, qui se tiendra, elle, à Paris, du mardi 19 au dimanche 23 août à l'université Paris 7 Diderot, donc sur les quais de Seine dans le 13e arrondissement, où là, notamment avec d'autres groupes d'attaque et d'autres organisations du mouvement social européen, nous aurons une réflexion sur le combat contre les multinationales, quels sont les moyens efficaces d'obtenir victoire. Et nous travaillons notamment avec Attaque Allemagne, qui a pu mener différents combats contre des multinationales type IKEA ou Lidl. Voilà, pour apprendre de eux ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont obtenu comme victoire, ce qui n'avait pas marché. Et nous aussi, on mettra ça dans le pot commun, nos victoires, nos échecs.
Alors, l'université d'été, qui est assez accessible, hein, l'inscription est possible, ouverte à tous. C'est traduit dans plusieurs langues, en général.
Donc, il y aura 4 langues. Français, anglais, allemand, espagnol, effectivement. Il y a le site pour s'inscrire et pour avoir déjà les premières esquisses du programme. Et le site, c'est ESU, pour European Social Movement, ESU2014.org.
Toi, donc, t'as passé ton enfance en Angleterre.
Avec un accent plutôt écossais. Mais... Et donc là, oui, effectivement, le tarif pour les 5 jours, c'est 40 euros le tarif normal et 20 euros pour ceux qui veulent mettre moins ou ceux qui veulent mettre plus, y mettent plus.
Et c'est très accessible, on arrive à comprendre plein de trucs en fait.
Il y a à peu près 150 activités, donc ateliers et autres, qui se tiendront pendant 4 jours. Et un concert de Jolie Môme pour la plénière d'ouverture le mardi 19.
Évidemment.
Qu'as-tu pensé de cette interview, Magali ?
C'était drôlement intéressant. Comment s'appelle cette association ?
Mais c'est ATTAC, le mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action.
Eh bien, j'adhère à ATTAC.
Eh bien, ça tombe bien, il y a un bulletin d'adhésion dans le kit.
Super.
Eh oui, nous sommes capables de faire des publicités comme les vrais. Alors, en rentrant dans un autre thème très actualité, celui-là. Ce matin à 10h, il y a eu une occupation par les intermittents du spectacle de la direction du travail, le direct d'Aubervilliers. Et nous écoutons Emmanuel qui nous a contacté au téléphone.
Donc avec des chômeurs, des précaires et des intermittents, des intérimaires aussi, et il y a des cheminots aussi, il y a des gens de la directe aussi qui sont avec nous. On est donc venu occuper ce lieu dans une action coordonnée avec toute la France, parce qu'il se passe des choses de la même façon aussi à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Dijon, à Rodez, à Besançon, à Lille. Il y a aussi des chambres de commerce qui sont occupées aujourd'hui à Brest, à Avignon. À Montpellier, il y a une délégation qui a été reçue aussi à la directe. Il y a aussi d'autres villes où ça s'est pas, où ils y sont pas arrivés parce que voilà, ils sont arrêtés par les forces de l'ordre. Mais donc, on est là depuis ce matin, depuis 9h45. Et donc, on vient demander à Monsieur Rebsamen de ne pas agréer la nouvelle convention d'assurance chômage, ce qu'il est susceptible de faire dans la semaine après le Conseil national de l'emploi qui aura lieu mercredi 18 juin. Voilà.
D'accord. Comment la journée s'est passée alors, depuis ce matin? Alors dis-nous un peu les actions qui se sont passées.
Alors, on est arrivé donc à 9h45. On est allé dans tous les bureaux pour expliquer ce qu'on faisait ici, pour les informer de la situation. On est allé voir les deux directeurs, donc le big directeur, on va dire, s'appelle Laurent Villeboeuf. Donc on a fait une longue réunion avec lui d'environ 10h15 à 11h30 pour lui demander de faire donc une lettre à François Rebsamen, ministre de l'Intérieur, oui, pour demander de ne pas agréer cet accord. Donc on a discuté longuement, et ce qui est très choquant, c'est qu'on s'est aperçu qu'on lui expliquait ce que c'était que cette nouvelle convention d'assurance chômage. Il était bien d'accord que, d'après ce qu'on lui expliquait, les exemples qu'on lui donnait, les analyses qu'on fait depuis 2 mois et demi, c'était catastrophique, sauf que visiblement, il n'était pas encore au courant. Et c'est quand même quelqu'un qui est sur une grosse direction du travail. Donc ça, c'est un petit peu impressionnant.
Un directeur qui n'est pas au courant des nouvelles données, alors.
Voilà, exactement. Et donc, suite à ça, il a dit qu'il ferait une lettre à Rebsamen, mais cette lettre, il ne voulait pas nous la faire lire. Donc, il a été bloqué un petit peu. Il avait un rendez-vous à 14h, il n'a pas pu s'y rendre. Il s'est enfermé donc pendant un moment dans son bureau avec des forces de l'ordre et avec deux représentants du collectif qui est venu occuper donc aujourd'hui. Ensuite, nous avons décidé de nous rassembler il n'a pas voulu aussi que les employés viennent assister à une assemblée générale qu'on avait demandé depuis ce matin. Donc, suite à ça, nous avons décidé, donc il a fini par sortir de son bureau, mais il est toujours dans les locaux. Et donc là, nous sommes à l'auditorium au 7e étage et nous faisons une assemblée générale avec les gens de la directe qui sont venus nous rejoindre, sachant que les gens de la directe ont eu l'ordre de quitter le bâtiment. Donc le directeur leur offre leur après-midi pour ne pas venir discuter avec nous. Mais il y en a quand même qui sont restés. Et là, j'étais un petit peu en retard par rapport au direct. C'est parce qu'il y a eu un petit mouvement des forces de l'ordre, donc on s'est un petit peu inquiété. Ouais. D'ailleurs, là, il y a un monsieur des renseignements généraux qui est en train de me regarder.
D'accord.
Et donc voilà, on poursuit notre assemblée générale. L'arrivée des forces de l'ordre, en fait, était un peu liée au fait qu'on avait dit à monsieur Villeboeuf, donc le directeur. Enfin, il nous avait demandé de donner une réponse à 15h d'une lettre qu'il a fait, une lettre à nous-mêmes, donc c'est voilà, en expliquant juste qu'il nous avait reçu, qu'on lui avait expliqué tout ça, en fait une lettre qui ne veut absolument rien dire,
ouais.
Qui acte ce qui s'est passé aujourd'hui, donc autant dire qu'on n'a absolument pas besoin de cette lettre. Et comme du coup on s'était dit que une lettre pareille, il n'y avait pas besoin de lui donner de réponse, la réponse qu'il fait, c'est qu'il nous envoie les forces de l'ordre. Donc voilà, on a décidé nous que l'Assemblée Générale était plus importante que de lui donner une réponse sur un
oui,
truc qui n'a aucun intérêt, donc on poursuit notre Assemblée Générale.
D'accord, donc d'ici ce soir, les choses vont avancer un peu ?
On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que là, le programme chance s'adapte au fur et à mesure. Donc là, pour nous, l'intérêt, c'était de venir discuter avec les gens qui travaillent ici et pas forcément avec seulement la direction. Parce qu'on sait aussi que la restructuration du domaine du travail, c'est aussi des gens qui ont des missions mais qui ne peuvent plus les mener à bien puisqu'on ne leur en donne plus les moyens. Donc on sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont ici des défenseurs du service public et qui ne peuvent plus faire leur travail comme il serait souhaitable de le faire. Donc pour nous, c'est très important ce qui se passe dans la rencontre avec eux, c'est très important dans une idée de convergence des luttes aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Il faut qu'ils soient informés parce qu'en plus, apparemment, les infos ne passent pas.
Et non, on discute avec eux justement en expliquant les droits rechargeables du régime général et tout ça. Et effectivement, ça a beaucoup de résonance chez eux. Et eux, en plus, nous apportent des éléments sur les pratiques aussi actuelles. C'est ce qui est... tout ce qui déconne un petit peu en ce moment, donc c'est une rencontre vraiment très intéressante.
D'accord, j'espère que les choses vont avancer, et de toute façon tu nous tiens au courant à FPP, tu sais.
Avec plaisir, ça marche.
D'accord, allez, à bientôt.
Ouais, merci beaucoup pour l'attention en tout cas, à bientôt.
Allez, à bientôt,
ciao.
Et on reprend l'antenne après cette intervention du collectif des intermittents. Et nous écoutons Alex qui va nous parler de son grand ami Thomas Piketty.
Mon grand ami, comme vous y allez. Ce soir, effectivement, je vais vous parler de la nouvelle star de l'édition aux États-Unis. Il est français, il n'a pas écrit un roman comme Guillaume Musso, mais un essai sur les inégalités économiques. A priori, Le Capital au XXIe siècle, c'est le nom du bouquin, n'avait rien pour devenir un best-seller. Le livre de Thomas Piketty fait plus de 900 pages, les illustrations ce sont des graphiques, et l'auteur se permet quelques fantaisies, comme dénoncer des formules du style « bêta est égal à S sur G », sachant que bêta, c'est le rapport du capital sur le revenu, S, le taux d'épargne, et G, le taux de croissance du PIB. Eh bien, ça n'a pas empêché le livre de se vendre à plus de 400 000 exemplaires aux États-Unis en un mois, et d'être en tête des ventes sur Amazon. Alors, c'est effectivement un livre passionnant, un livre qui démontre de manière indubitable que les inégalités augmentent partout dans le monde depuis la fin des années 70. C'est quelque chose dont on était déjà à peu près convaincu, mais qui est là mis en perspective sur une longue durée. Piketty a en effet compilé toutes les données accessibles sur le niveau de revenus en Europe et aux États-Unis sur les deux derniers siècles. Il en ressort une histoire du capital qui est bien plus mouvementée qu'on l'imagine. Malgré les différences de niveau de développement, les différences culturelles, on voit très clairement des grandes tendances communes à ces différents pays. Entre 1870, on a ce qu'on pourrait appeler la période Balzac-Marx. Alors que la révolution industrielle transforme profondément la société, Piketty montre comment, en fait, les inégalités restent sensiblement les mêmes que sous l'Ancien Régime. La noblesse en France représentait 1 à 2% de la population avant la Révolution. En 1810, quelques années après la Révolution, 1% de la population possédait un peu moins de la moitié de tout ce qu'il y avait à posséder en France. Terres, immeubles, actifs financiers, etc. Pendant toute cette période, alors que l'industrie se développe, que pour la première fois depuis que l'humanité existe, le niveau de vie augmente de manière importante en quelques générations, ce niveau d'inégalité reste stable. Comme sous l'Ancien Régime, le meilleur moyen de vivre bien, c'est d'hériter ou de séduire une héritière. C'est ce que très cyniquement nous explique Balzac dans Le Père Goriot. Pendant ce temps-là, les salaires des ouvriers n'augmentent pas. C'est l'époque où Marx prévient que si le capital continue à se concentrer et les salaires de stagner, il va y avoir une révolution. Manque de bol, c'est pas exactement ça qui se passe. Pendant la période suivante, la belle époque, aux États-Unis on appelle ça le Gilded Age, les salaires ouvriers sont légèrement relevés, on commence à mettre en place une législation sociale, on lutte contre les aspects les plus choquants de la misère, mais en fait, les inégalités s'accroissent. En 1910, on atteint un record. À Paris, 70% du patrimoine est détenu par 1% des habitants. C'est l'époque où on ne vend pas des appartements, mais des immeubles. En 1914, survient la catastrophe, le début de la Première Guerre mondiale. Des millions de morts, mais surtout le début de 30 années épouvantables pour les grandes fortunes. Entre les guerres, la Grande Dépression, la Révolution russe, l'invention des nouveaux impôts de plus en plus confiscatoires et l'inflation, le grand capital va perdre beaucoup de plumes. En 1945, la part de patrimoine des 1% les plus riches a été diminuée par 2. La valeur du capital mesurée en années de PIB a été diminuée par 3. C'est le moment qui est choisi par le gouvernement provisoire pour nationaliser à tour de bras et imposer les plus gros patrimoines à 20%. Ce n'est d'ailleurs pas propre à la France. Dans toute l'Europe et dans une moindre mesure aux États-Unis, on a euthanasié les rentiers, comme aurait dit Keynes. Le malheur des uns faisant parfois le bonheur des autres, le fait d'avoir tondu les rentiers va permettre l'éclosion d'une véritable classe moyenne. De 1945 à 1975, pendant les Trente Glorieuses, la part des 1% les plus riches va continuer de baisser, non pas parce que les capitalistes s'appauvrissent, mais parce que les revenus du travail progressent plus vite que ceux du capital. Les travailleurs les mieux payés, les cadres, les professions libérales, les enseignants à l'époque, vont en profiter pour se constituer un patrimoine, acheter un logement ou deux, placer son épargne, etc. Pour la première fois, durant les années 70, le patrimoine des classes moyennes va dépasser celui des 1% les plus riches. Mais cette vraie belle époque ne va pas durer. À partir de 1980 dans les pays anglo-saxons, de 1983 en France avec le tournant de la rigueur, on voit les inégalités repartir à la hausse. Ne cherchez pas, il n'y a pas de raison économique à ce revirement. C'est pour l'essentiel les conséquences du néolibéralisme, c'est-à-dire de choix politiques. La baisse des impôts sur le capital, la dérégulation financière, le développement des paradis fiscaux vont favoriser les rentiers. Si l'accroissement des inégalités est modéré en France, la faute en revient à tout ce fratras d'État social, de salaire minimum et de système public de retraite. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, elles explosent littéralement. Pendant longtemps, jusqu'aux années 50-60, les inégalités ont été plus faibles aux États-Unis qu'en Europe. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. On assiste notamment à l'apparition d'une nouvelle espèce de riches, les super cadres du privé, qui cumulent des salaires franchement délirant, avec des plus-values sur les stocks options qu'on leur donne généreusement, tout en bénéficiant de revenus qu'ils tirent de leur patrimoine personnel. Ce sont donc les nouveaux super-riches, ces travailleurs de Wall Street, avec beaucoup de guillemets, qui sont les premiers responsables de la crise et les principales cibles des mouvements comme Occupy. Mais il ne faut pas s'y tromper, le livre de Piketty réhabilite quelque chose qui était devenu un peu ringard ces derniers temps, la lutte entre le capital et le travail. Il énonce plusieurs lois fondamentales du capitalisme. Derrière ce nom pompeux se cachent des formules un peu absconses. L'une d'elles est pourtant parlante une fois qu'on l'a décryptée. Selon Piketty, en général, R est supérieur à G.
Ah.
Alors, oui, voilà, explication, qu'est-ce que c'est? Alors R, c'est le taux de rendement du capital, ce qu'en moyenne rapporte le capital par an une fois investi, et qui a tendance à être supérieur à G, qui est le taux de croissance de l'économie. Quand c'est le cas, et c'est généralement été le cas, sauf durant les Trente Glorieuses, mécaniquement, les capitalistes s'enrichissent plus vite que les travailleurs. Du coup, le capital a tendance à se concentrer dans un nombre de plus en plus petit de mains. C'est ce qui s'est passé à la belle époque, et selon Piketty, c'est ce qui pourrait se passer, c'est ce qui est en train de se passer, et qui pourrait s'accélérer durant le prochain siècle.
Le nouveau Marx a parlé. Et nous avons une petite chronique pour essayer de terminer l'émission. Ça part d'un article de Nico Hirt que vous pouvez retrouver dans le journal Respublica, le journal du réseau de la gauche républicaine, laïque, écologique et sociale, et que Jean-Marc va tenter de nous expliquer.
Alors, on a énormément parlé du 6 juin 44 avec la fiesta organisée pour les 70 ans. Et Nico Hirt, qui est un essayiste belge, avait écrit il y a 10 ans, pour les 60 ans du débarquement de Normandie, un texte qui a gardé toute sa fraîcheur. Et il nous explique dans ce texte que, finalement, il s'agit de continuer un mythe, le mythe du 6 juin comme tournant de la guerre, ce qui est absolument faux au niveau historiographique et au niveau des chiffres. Alors, il nous donne un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes au niveau statistique. Il nous dit, quand les Américains et les Britanniques débarquent sur le continent, ils se trouvent face à 56 divisions allemandes disséminées en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Au même moment, les Soviétiques affrontent 193 divisions sur un front qui s'étend de la Baltique aux Balkans. La veille du 6 juin, un tiers des soldats survivants de la Wehrmacht ont déjà enduré une blessure au combat. 11% ont déjà été blessés deux fois. Alors, ces éclopés constituent, aux côtés des contingents de gamins et de soldats très âgés, l'essentiel des troupes cantonnées dans les bunkers des murs de l'Atlantique. Les troupes fraîches, équipées des meilleurs blindés, sont, elles, en Ukraine et en Biélorussie, où ça commence à taper fort. Alors, au plus fort de l'offensive, la France, les Américains, les Anglais, vont aligner 94 divisions pour les Américains, 31 pour les Britanniques, 14 pour les Français. Pendant ce temps, les Soviétiques en alignent 491. Évidemment, on n'est plus du tout dans la même échelle. Alors, au moment du débarquement allié, c'est toujours les statistiques que nous fournit Nick Wirth, sur 3,25 millions de soldats allemands tués ou disparus durant la guerre, 2 millions sont tombés entre juin 41 et le débarquement de 44, donc avant l'arrivée massive des Américains. Moins de 100 000 étaient tombés avant juin 41. Et sur les 1,2 millions de pertes allemandes après le 6 juin 44, les deux tiers se font encore sur le front de l'Est. Et on le comprend puisque la seule bataille de Stalingrad a éliminé, destruction ou capture, deux fois plus de divisions allemandes que l'ensemble des opérations menées à l'Ouest entre le débarquement et la capitulation du 8 mai 45. Au total, 85% des pertes militaires allemandes de la Deuxième Guerre mondiale sont dues à l'armée rouge. 85%, ça laisse donc 15% pour tous les autres fronts. Alors le prix à payer aussi est très différent. Les Américains ont très bien fait leur pub, mais ils ont perdu, on serait tenté de le dire, que 400 000 soldats, c'est absolument horrible de dire que 400 000 soldats, mais et 6 000 civils, pour l'essentiel des marins de la marine marchande coulés par les sous-marins. Les Soviétiques, dans le même temps, ont perdu entre 9 et 12 millions d'hommes, c'est selon les différentes statistiques, et entre 17 et 20 millions de civils. On n'est plus du tout dans la même échelle. Si on compare avec un autre pays dont les statistiques sont impossibles à établir, mais grandioses, qui est la Chine, on compterait jusqu'à 30 millions de victimes pour la même période. Donc des statistiques macabres, mais qui montrent que le mythe qu'on emploie aujourd'hui et qu'on, pour les 70 ans du débarquement, ce mythe américain entretenu par les Occidentaux, est aussi un moyen de gommer l'immense effort fait à l'Est. Et si on regarde par exemple encore une fois une seule bataille, la bataille de Koursk en 43, l'armée allemande a été saignée à cet endroit-là, 500 000 tués allemands en une bataille, 1000 chars détruits en 10 jours de combat. C'est là que l'armée allemande a été vaincue et non pas sur les plages de Normandie. Et ce n'est évidemment pas une manière de cracher sur les efforts absolument terribles faits par les GIs américains qui ne sont pas responsables des problèmes politiques de l'époque et d'aujourd'hui.
Conclusion macabre, une de plus. Et nous terminons par l'agenda avec Magali.
Alors tout d'abord, si on a beaucoup parlé des Fralib, de leur combat contre Unilever tout à l'heure avec notre invité, donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre le 15 juin au café Lieu dit 6 rue Sorbier dans le 20e où Attac organise une projection débat.
Alors, conférence sur les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, un débat proposé par Attac Paris Centre, par Jean-Michel Dupont, militant Attac et coprésident des AMAP Île-de-France, mardi 17 juin à 19h, salle des mariages, mairie du 10e, 72 rue du Faubourg Saint-Martin.
Dans le cadre du rendez-vous du documentaire Engagé, Jeux d'influence, les crises, Politis et l'association Voir Agir présentent un film de Luc Herman et Gilles Beauvon. Ce jeu d'influence est celui des conseillers en communication. La projection sera suivie d'un débat animé par Antoine Girard avec Luc Herman. Et ça sera le mercredi 18 juin à 20h au Centre culturel du cinéma de la Clé. 21 rue de la Clé, Paris dans le 5e.
Une soirée Stop TAFTA. TAFTA pour Transatlantic Free Trade Area. Grosso modo, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Et le collectif Stop TAFTA de Montreuil nous invite à une petite croisière théâtrale avec une troupe militante qui sera donc une croisière ludique et instructive pour comprendre le projet de grand marché transatlantique. Ce sera le mercredi 18 juin de 20h à 22h30 à Comme vous et moi à Montreuil, 5 rue de la Révolution, métro Robespierre.
Pour faire suite à l'intervention de Magali sur l'audit de la dette, il y a justement une réunion débat buffet organisée par le collectif pour un audit citoyen de la dette qui aura lieu le jeudi 19 juin à 19h au CICP 21 UTR rue Voltaire dans le 11e à Paris.
Le collectif Paris 5e, 13e contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes vous invite quant à lui à une rencontre débat avec Hervé Kempf, journaliste à reporter et auteur de Notre-Dame-des-Landes, publié au Seuil en 2014. Ça se passe le 23 juin à partir de 19h à l'école Arago, boulevard Arago, dans le 13e.
À suivre, paradis fiscaux du plan Marshall aux hedge funds. Attaque 15e vous invite à une conférence débat avec Alain Deneau, membre de l'ARAC Québec, chercheur sur les réseaux de la justice fiscale. Donc ce sera le mercredi 24 juin à 20h, 17 rue de Lavre, Paris 15e.
Alors, Festival de Films Résistance, 18e édition du Festival de Films Résistance. Une des thématiques du Festival 2014 s'intitule « Quand le peuple se fâche » et entre parenthèses se fascise, et comporte 12 films. Du 4 au 12 juillet à Foix en Ariège, plus de renseignements sur http://festival-resistance.fr.
Et pour terminer, donc la 7e édition de la Terre Village d'Attaque. Donc cette année, ce sera à Saillant, dans la Drôme, du 27 juin, dans la Drôme, du 27 juillet au 3 août. Donc voilà, pour des vacances militantes, on vous invite à aller voir cet endroit qui est magnifique.
Et dernier petit rappel.
Et vraiment pour finir, l'événement incontournable à ne pas louper, c'est la fameuse ESU, l'Université Européenne des Mouvements Sociaux à l'initiative du Réseau des Attaques d'Europe, qui se tient du mardi 19 au samedi 23 août à l'Université Paris 7 Diderot dans le 13e arrondissement.
Et nous remercions pour cette émission notre invité Nicolas Berthomo d'Attaque et puis toute l'équipe, Alex, Jean-Marc, Magali, Boris, Gaël qui nous a quittés un petit peu plus tôt, Marie qui était dans la bulle derrière, qui nous fera certainement en prochaine fois une chronique, et évidemment Claude à la technique. Et nous écoutons pour terminer Avishai Cohen, Song for My Brother.